Bret Hart, scène californienne, l'arche de Marie. Lorsque la marée se retirait du marécage de Ludlow, elle laissait derrière elle une vaste et lugubre étendue des bas-fonds spongieux, de mares fangeuses et de fondrières profondes, d'où s'échappaient encore les derniers filets d'une eau noirâtre dans la direction de la baie. Quelques plantes amphibies surnageaient encore, exhalant leurs odeurs nauséabondes. Si vous appeliez à votre secours l'imagination pour vous distraire de ce spectacle d'une plate monotonie, les humides résidus de l'inondation ne vous rappelaient que le retour régulier de la marée avec ses sinistres résultats. Bref, même dans cette partie du marécage qui pouvait ressembler à une prairie, la végétation paraissait arrêtée par la certitude de ce périodique flux et reflux qui n'entretenait qu'une verdure maladive. L'expression vocale du Dilo Marlson ajoutait encore à la tristesse de ce terrain incessamment submergé. La rossité sépulcrale du butor, le cri aigu des courlis, le nasillement du canard, la note querelleuse de la sarcelle, les protestations plaintives de la grue et les gémissements articulés du pluvier étaient parfaitement d'accord avec la physionomie mélancolique de ces oiseaux. Certes, il n'y avait rien de gai dans l'attitude du héron debout avec de l'eau à mi-jambe, ni dans celle de la bécasse résignée comme lui à toutes les conséquences de ce bain de pied, ni dans l'impassible contemplation d'un matin martin pêcheur, ce Marius ornithologique, ni dans les allées et venues du soir corbeau qui rappelait le messager du patriarche Noé, ne pouvant décider si la terre était sauvée du déluge, et n'osant pas retourner à l'arche sans une réponse positive. Il était évident que l'aspect de ce désert fangeux ne produisait qu'une impression désolante sur tous les oiseaux, les adultes et les jeunes, et ne se consolant que par l'attente de la saison de leur migration annuelle. Mais si le Dedlow Marsh était triste, pendant la lente retraite de la marée basse, il fallait le voir quand il disparaissait rapidement sous le niveau de la marée haute, quand une bise froide et humide soufflait de la mer et qu'une brume faisait de l'atmosphère comme une seconde marée au-dessus de l'autre, quand, çà et là, d'énormes troncs d'arbres déracinés flottaient comme des épaves d'un naufrage, quand les palmipèdes glissaient silencieusement, sans tracer un sillage, ni soulever une ride sur la sombre surface, quand, égarés par le brouillard, les mariniers ne tenaient plus leur rame que d'une main engourdie et tressaillaient soudain si leur barque s'arrêtait dans des touffes d'herbes qui leur semblaient la chevelure de noyer, signe auquel ils reconnaissaient que la marée les avait entraînés dans le marécage où ils étaient condamnés à passer le reste de la nuit. Mes fréquentes parties de chasse aux canards dans les environs de Dedlow Marsh me firent rencontrer une pauvre femme dont je veux vous raconter l'histoire, en regrettant de ne pas l'avoir écrite sous sa dictée, plus éloquente que mon récit. Cette femme, appelée Marie Norris, habitait à mi-chemin de la grande fondrière de Dedlow et de l'embouchure de la rivière qui, 4 000 au-delà, verse ses eaux dans un estuaire formé par l'océan Pacifique. Sa maison était une petite cabane bâtie sur pilotis à 3 000 environ des autres établissements de la rivière. C'était la femme d'un charpentier bûcheron. Métier lucratif dans un canton dont la principale industrie et l'exploitation et la préparation des arbres propres à la construction des habitations d'eau redoublent des barques. Le charpentier bûcheron avait profité du flux et reflux d'une haute marée pour conduire un radeau à la destination de l'autre extrémité de la baie. Et comme Marie était près de la porte de la cabane au moment du départ, elle avait remarqué un point noir à l'horizon du sud-est. Elle se souvenait que son homme avait dit à ses camarades qu'ils devaient faire en sorte de compléter leur voyage avant que le vent soufflât du sud-ouest. La nuit venue, éclata un orage plus fort qui amena qu'aucun de ceux dont elle avait jamais été témoin dans sa vie. Quelques gros arbres furent déracinés sur le bord de la rivière et la cabane oscilla sur ses pilotis comme le berceau de l'enfant. Mais quelque violent que fût l'assaut donné par la rafale à la cabane, Marie savait que la porte était défendue par des barreaux solides et elle se disait que si son homme eût craint quelque chose pour elle, il ne l'aurait pas laissée seule. Grâce à cette confiance, aux occupations du ménage et aux soins qu'exigeait son nourrisson malade de la coqueluche, l'ouragan ne lui inspirait aucune crainte pour elle-même. Et si par moment elle éprouvait quelque inquiétude, c'était en pensant au conducteur du radeau. Quoiqu'elle calculât que radeau et conducteur devaient être à l'abri dans le port d'Utopia. Ainsi se passa la nuit du premier jour. Le lendemain matin, quand Marie alla donner le grain aux poules et à la provende à la vache, elle remarqua que la marée était à la hauteur des pieux de clôture du petit jardin, et elle entendit distinctement, quoiqu'à une distance de plusieurs miles, le grondement du ressac sur la plage du sud. Cela lui fit faire la réflexion qu'elle ne serait pas fâchée d'avoir quelqu'un à qui communiquer ses observations. Et si ses plus proches voisins, les Rickman, n'avaient pas été trop loin encore par un pareil temps, elle aurait volontiers pris l'enfant dans ses bras pour aller passer une heure chez eux. Mais, dit-elle, si pendant cette heure-là mon homme revenait tout mouillé, il ne me trouverait personne pour changer de vêtements, et le bébé tousse beaucoup. La seconde nuit vint. « Mais pas sommeil, se dit Marie, je ne me coucherai pas. » La tempête lui parut un peu calmée, mais elle ne se sentait pas plus disposée pour cela à se mettre au lit. Afin de se distraire, elle essaya de lire. Je ne sais quel volume elle ouvrit. Était-ce une Bible ou un volume profane? Probablement celui-ci, car les mots s'y confondaient sous ses yeux et n'offraient aucun sens, ou pire encore. Si bien que, renonçant à lire, elle se rapprocha du berceau qui contenait ce petit livre vivant, dont la première page, la préface, était encore pure de toute tache, et la dernière n'était qu'une page blanche réservée pour le mystérieux dénouement que la pauvre mère cherchait en vain à deviner. Et Marie se mit à balancer le berceau jusqu'aux environs de minuit. À cette heure-là, enfin, elle ferma les yeux et s'endormit sans être déshabillée. Combien de temps avait duré ce sommeil? Marie ne put s'en rendre compte lorsqu'elle fut réveillée par la sensation d'un étouffement et se trouva debout toute tremblante au milieu de la chambre. L'enfant pleurait, criait et sanglotait. Marie marchait à grands pas pour l'apaiser. Lorsqu'elle entendit gratter à la porte, elle hésita avant de l'ouvrir. Et ce fut une joie pour elle de voir que c'était seulement le vieux Pedrillo, le chien du logis, qui s'introduisit en rampant tout trempé d'eau. Elle aurait bien voulu jeter un regard dehors, mais non qu'elle espéra apercevoir son mari, mais pour interroger les signes du ciel. Le vent ébranlait si furieusement la porte qu'elle ne la referma pas sans des efforts de répéter. Et après avoir tour à tour arpenté la chambre et s'être assise pour recommencer à marcher et à se rasseoir, elle finit par s'adosser à la muraille lorsqu'elle crut entendre comme le craquement de branches d'un arbre, bruit auquel succéda un gargouillement comme celui que faisait l'enfant s'il buvait trop vite, puis quelque chose comme clic, clic, clic et clac, clac. Marie s'assit sur le lit et vit s'insinuer par-dessous la porte un filet d'eau qui, pas plus gros d'abord que le petit doigt de sa main, devint bientôt aussi large que toute la maison main et se répandit sur tout le parquet. Elle courut à la porte d'entrée et l'ouvrit et ne vit plus que de l'eau. Elle courut à la porte de l'arrière, l'ouvrit et ne vit plus que de l'eau. Elle se souvint alors d'avoir ouï dire à son mari qu'il n'y avait pas à avoir peur de la marée parce que elle n'arrivait et se retirait régulièrement et qu'il aimerait mieux habiter près de la baie que près de la rivière, dont les bords pourraient être submergés au moment où on s'y attendait le moins. Mais était-ce la marée? Elle courut encore à la porte de derrière et jeta dehors un morceau de bois qui fut entraîné vers la baie. Elle prit un peu d'eau dans une échelle et la porta vivement à ses lèvres. Cette eau était fraîche et douce. C'était donc l'eau de la rivière et non de la marée. Cette conviction, béni soit Dieu dans sa bonté, ne priva pas Marie de son sang-froid. Béni soit le Sauveur, car ce fut lui qui, par sa miséricorde, raffermit son courage et la soutint dans sa lutte contre les épreuves de cette funeste nuit. Elle amena le lit au milieu de la chambre, mit une table sur le lit et le berceau sur la table, et l'eau qui envahissait le parquet montait déjà à la hauteur de ses chevilles, et deux ou trois fois la cabane fut tellement ébranlée que les portes extérieures s'ouvrirent d'elles-mêmes. Et après une autre secousse et un choc contre la muraille, Marie regarda par la fenêtre et elle reconnut un gros tronc d'arbre déraciné qui avait été apporté jusque-là par le courant, mais dont, heureusement, les racines, raclant le sol, le retenaient comme des amarres. Car si cet arbre avait heurté la cabane avec la violence d'une impulsion plus rapide, il en eut 10 joies la charpente. Marie comprit que des choses répétées finiraient par renverser la cabane déjà bien ébranlée. Elle prit une couverture du lit, elle en enveloppa l'enfant, le tint avec un bras et sauta sur le tronc, où, grâce à Dieu, à l'écorce rugueuse et aux chevelus des racines, elle put garder pied et se cramponner avec sa main droite encore libre. À peine y était-elle que la cabane, sans attendre un autre assaut, vacilla sur ses pilotis et une moitié de la façade fut précipitée dans l'eau. Un instant après, le gros tronc, recevant une impulsion nouvelle, virait de bord et reprenait le cours de sa navigation avec son équipage. Au milieu de ses émotions, en voguant ainsi à travers les ténèbres de la nuit, occupé à calmer les cris de son enfant, et ne sachant quel nouveau péril elle allait courir, Marie tourna encore la tête pour tâcher d'apercevoir une dernière fois ce qui restait de son humble demeure. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce que ferait son mari en ne retrouvant plus ni la demeure ni ses habitants. Elle s'aperçut ensuite que le pauvre Pedrillo s'était aventuré lui aussi sur cette informe embarcation de sauvetage et avait plus de peine qu'elle à s'y maintenir, jusqu'à ce qu'à force de changer de place, il se laissa choir et ne put remonter. Vainement, sa maîtresse lui tendit une main secourable. Elle le perdit de vue et se trouva seule avec l'enfant. En cherchant à deviner où le courant la conduisait, Marie se flattait de l'espoir que ce pourrait être vers la baie, où le tronc d'arbre serait arrêté par des promontoires boisés de la péninsule et qu'elle y attendrait la lumière du jour. Et quelquefois, elle croyait entendre des voix d'hommes qui la hélaient sur les bords de la rivière, ou le beuglement des vaches et le bêtement des moutons. Quelquefois, ces bruits n'étaient que le bourdonnement de ses oreilles ou les battements de son cœur. Enfin, elle découvrit que le froid et la gêne de sa position avaient engourdi et roidi tous ses membres, jusqu'à lui rendre tout mouvement presque impossible. Si, pour apaiser les cris de l'enfant, elle offrait le sein à ses petites lèvres, le lait était tari, ce qui l'effraya tellement qu'elle se voila la tête avec son châle et pour la première fois pleura amèrement. Quand elle releva la tête, Marie distingua derrière elle le grondement du ressac et comprit que le vent ou un contre-courant avait encore changé la direction de son arche errante. Ayant puisé avec la main quelques gouttes d'eau pour rafraîchir son gosier brûlant, elle trouva que cette eau était salée comme ses larmes. Oh, ce fut pour elle un soulagement de reconnaître à ce signe qu'elle voguait maintenant avec la marée. Au même instant, le vent tomba, et il régna autour d'elle un silence solennel avec des ténèbres plus profondes. Elle parla à l'enfant pour s'entendre parler et s'assurer qu'elle n'avait pas perdu la voix. Elle se souvint de l'histoire biblique du déluge et se figura combien devait être imposante la première nuit où l'arche vogua sur le pic du mont Ararat, et où la famille du patriarche ne perçut plus aucun des sons de la création. Elle se compara aussi à ces marins qui survivent à un naufrage, les uns s'accrochant à une épave, les autres à tirer et réussir à faire un radeau. « Dieu soit loué, » dit-elle, « tout espoir n'est pas perdu, et voilà mon enfant qui dort. » Soudain, vers le sud, un scintillement de lumière frappa ses regards et elle reconnut la flamme tournante du phare à l'entrée de la baie. Le tronc d'arbre, bercé par un flot, fut remis en mouvement et alla enfin s'atterrer. La position du phare et le bruit du ressac indiquèrent où il avait échoué. Si ce n'avait été son enfant, dont le sommeil maladif n'était pas de longue durée, et que son sein refusait d'allaiter, Marie se serait félicitée d'être au terme de toutes ces épreuves. La marée se retirait rapidement, et auprès d'elle venait voltiger une troupe de divers palmimènes, canards, sarcelles et pluviers, dont quelques-uns se posèrent sans crainte sur le tronc d'arbre. Entre autres, un joli petit oiseau blanc, semblable au pélican, mais d'une autre espèce que le pélican, et qui, après avoir tournoyé autour de sa tête, finit par se laisser familièrement caresser comme une colombe apprivoisée. Marie aurait voulu attirer sur lui l'attention de l'enfant pour le distraire, mais le pauvre petit, engourdi par le froid, n'avait plus la force de soulever ses paupières entourées d'un cercle bleuâtre. Elle le crut mort, poussa un cri de désespoir qui fit fuir l'oiseau, et elle perdit tout à fait connaissance. Ce fut la plus cruelle, mais aussi la dernière de ces douloureuses sensations, car lorsqu'elle revint à elle, la marée s'était entièrement retirée du marécage, et le soleil brillait dans toute la splendeur de l'heure du midi. Autour d'elle murmurait un bruit confus de voix gutturales, et auprès d'un grand feu, une vieille squaw fredonnait l'air avec lequel les indiennes endorment leurs nourrissons. La première pensée de la mère, lentement rendue à la vie, fut pour l'enfant. Elle allait demander, lorsqu'une jeune squaw, qui devait être mère elle-même, prévint sa question en lui apportant le bébé, pâle mais vivant, dans un charmant petit berceau d'osier. Puis la vieille squaw et la jeune squaw, montrant dans un bienveillant sourire leurs grandes dents blanches et écarquillant leurs yeux noirs, lui dirent « Va beaucoup bien, petit blanc, bientôt grand blanc reviendra. » Elle eut volontiers embrassé les deux squaws dans le transport de sa joie maternelle. Ce n'est que plus tard qu'elle sut comment elle avait été découverte sur le tronc d'arbre par ces bonnes indiennes qui avaient pris soin d'elle et du bébé. Survint vers le soir le mari qui arrivait d'Utopia, vieilli de 10 ans par l'inquiétude, mais qui, trop heureux de retrouver sains et saufs sa femme et son enfant, se mit gaiement au travail pour bâtir une autre cabane dont le tronc d'arbre fournit la principale charpente et qui fut appelée l'Arche de Marie. Je n'ai pas besoin d'ajouter que l'emplacement choisi pour cette nouvelle habitation du charpentier était au-dessus de la ligne des hautes eaux.